Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à midi et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca. Bonjour à tous, c'est François Macon au micro de Radio Victoria. Merci, chers auditeurs, d'être fidèles à votre rendez-vous du mercredi midi. Regard sur le Grand Victoria, nous sommes ensemble pour une demi-heure, un peu plus qu'une demi-heure, pour, vous le savez désormais, décrypter l'actualité locale et ses enjeux, l'actualité municipale plus particulièrement. Avant de commencer, je souhaitais passer un petit message, une excellente fête nationale en retard. C'était hier, le 14 juillet, à tous les ressortissants français. J'espère que vous avez passé un bon moment. Continuez d'ailleurs de nous écouter. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Radio Victoria. Je le rappelle, la seule radio francophone en Colombie-Britannique. Donc merci pour votre fidélité. Au sommaire de cette 16e émission, nous allons parler ensemble de l'avenir de la voiture et du transport. Le véhicule électrique est-il l'alternative la plus sérieuse, la plus crédible, la plus écologique à l'actuelle voiture qui consomme des énergies fossiles ? Un sujet d'actualité puisque nous allons voir les municipalités de Saanich et de Victoria ont toutes deux pris des mesures pour favoriser la transition vers l'acquisition de véhicules électriques. Nous en parlerons avec le professeur Jean-Thomas Bernard de l'Université d'Ottawa qui est professeur en sciences sociales et en sciences économiques. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons un autre professeur émérite, Timothée Stanley, pour nous parler des problématiques de racisme systémique, puisque demain, les conseillers municipaux de Victoria, Jérémy Loveday, Ben Isit, Charmac Dubo et Sarah Potts vont déposer une motion visant à faire interdire désormais les contrôles au faciès, les contrôles d'identité inopinés par les services de police de Victoria. Comment les institutions et notamment les gouvernements locaux peuvent-elles se réformer ? Ces mesures sont-elles suffisantes afin de faire baisser les indicateurs de racisme systémique et favoriser désormais le vivre ensemble ? Nous poserons toutes ces questions à Timothée Stanley. Et enfin, en troisième et dernière partie de cette émission, je vous propose de recevoir le professeur Tim Aubry, professeur et chercheur à l'Université d'Ottawa dans les domaines du logement, de l'itinérance et de la santé mentale, avec lequel nous reviendrons sur la dernière évolution du dossier des sans-abri à Victoria, puisque la maire Lisa Helps a demandé vendredi à la Cour suprême de la Colombie-Britannique d'établir une ordonnance afin de déplacer les sans-abri du parc Beacon Hill dans certaines zones du parc qui sont jugé beaucoup moins sensible du point de vue environnemental puisque, je le rappelle, le parc Beacon Hill abrite en son sein une population déclinante et menacée de chênes de gary et d'autres espèces endémiques vulnérables. À la lumière de ce dernier rebondissement dans ce dossier, l'occasion pour nous de revenir avec notre invité sur la gestion par la municipalité de Victoria du dossier des sans-abri durant cette crise du Covid-19. Nous reviendrons sur la chronologie, sur les solutions apportées, mais aussi sur celles à définir pour garantir une meilleure réinsertion de ces populations vulnérables. Vous retrouverez tout cela dans la troisième partie d'émission, mais avant, je vous propose un petit tour de l'actualité municipale en bref. Il n'y aura pas cet été de consommation légale d'alcool dans les parcs de North Saanich. Je vous en parlais la semaine dernière, lundi, les conseillers municipaux de North Saanich ont rejeté une motion présentée par deux élus du conseil visant à autoriser la consommation d'alcool dans les parcs de la municipalité de midi à 18h dans la période estivale. La proposition a été rejetée à la quasi-unanimité, à l'exception du vote de Chris Graham. Une dizaine de courriers a été déposé dans la semaine précédant le vote par les résidents de Centrale Saniche. Ces derniers se sont majoritairement opposés à la modification de la politique publique en matière de consommation d'alcool, à tel point que le co-auteur de la motion, le conseiller Neil Palchel, a voté contre sa propre motion en soulignant qu'il avait pris en compte de nombreux facteurs suite justement à ces correspondances, notamment évidemment les commentaires du public, la contribution des responsables de la santé publique qui se sont aussi opposés, et en citant le temps et les ressources désormais consacrées par le personnel de la municipalité qui doit toujours faire face à la pandémie de Covid-19. Des arguments de cohérence régionale ont également été avancés. Nous rappelons que la semaine dernière, les homologues de Centrale Saniche, ceux de Saniche, ont rejeté une motion parfaitement identique. Et puisque je vous parle de Saniche, sachez que la ville a décidé en conseil municipal lundi unanimement d'interdire désormais l'utilisation de rodenticide anticoagulant, plus connu sous le nom de mort au rat, et demande au personnel d'éduquer la communauté sur les effets nocifs et ravageurs de ce poison. L'idée et la motion sont exactement similaires en tout point à celles adoptées à la mi-juin par le conseil municipal de North Vancouver. Le vote de Saniche a été motivé par la mort récente d'un hibou rayé et d'un grand-duc d'Amérique près de l'espace vert communautaire de Kings Road. Les rapports d'autopsie pratiqués sur les deux oiseaux ont révélé que les deux espèces menacées étaient probablement mortes après avoir ingurgité du poison à destination des rongeurs. Notre premier sujet de la semaine, la voiture électrique est-elle l'avenir du transport automobile ? Cette question, nous nous la posons aujourd'hui puisqu'elle est dans l'actualité de deux de nos principales municipalités, Saniche et Victoria. Saniche d'abord, qui a décidé de rendre désormais obligatoire dans la construction de toute nouvelle maison individuelle des bornes de rechargement pour les véhicules électriques. De son côté, la ville de Victoria, qui a construit depuis 2011 13 nouvelles bornes de rechargement et qui va en construire d'autres, a décidé la semaine dernière en conseil municipal d'appliquer des frais désormais sur la recharge des véhicules électriques. Alors, il s'agit d'un tarif pour l'instant fixé à 1$ de l'heure pour les stations de rechargement dites de niveau 2 qui rechargent vos batteries en moins de temps et d'1$ pour une recharge complète sur des stations de niveau 1 de 120 volts. Dans les deux municipalités, on prévoit que d'ici 2030, 30% du parc automobile sera désormais constitué par des véhicules électriques et l'ambition est même portée à 100%, un renouvellement complet du parc automobile d'ici 2050 par des véhicules électriques. Les deux municipalités rappellent dans leurs rapports respectifs que 60% des émissions de gaz à effet de serre sont la responsabilité du transport des véhicules routiers et semble désormais miser sur le véhicule électrique pour une réduction des gaz à effet de serre et de l'impact carbone. Si les ventes de véhicules électriques au Canada ont progressé fortement depuis ces deux dernières années, 5% de ventes en plus sur 2018-2019, le véhicule électrique est-il pour autant une alternative écologique, crédible et sérieuse ? Qu'en est-il aujourd'hui des politiques incitatives pour favoriser la transition vers l'acquisition de ce type de véhicule ? Quelle est la réalité du coût d'achat et de l'investissement pour les particuliers ? Quelle est la réalité de la question aujourd'hui écologique concernant l'extraction des minerais qui servent aux composants de ces batteries ? De la durée de vie et du recyclage de ces batteries ? Pour aller plus loin dans ce sujet, je reçois maintenant le professeur Jean-Thomas Bernard, professeur à l'Université d'Ottawa. Bonjour professeur.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin ?
Ça va très bien.
Alors merci en tout cas d'être avec nous, on va faire un point un peu plus complet sur la réalité du marché, du coût environnemental et du coût d'accession du véhicule électrique aujourd'hui au Canada. En écho au sujet que je présentais précédemment, vous pouvez peut-être nous éclairer aujourd'hui sur la réalité des chiffres du parc automobile des véhicules électriques aujourd'hui au Canada et peut-être un peu plus largement dans le monde. À combien de véhicules on est aujourd'hui en circulation et quelles sont les prévisions de vente et d'accession pour ce type de véhicules ?
Bien, je vais devoir commencer par l'échelle mondiale. Il y a environ 1 milliard de véhicules automobiles, hein, c'est les véhicules, les petits camions et tout, là, ce qui est utilisé principalement là, dans la vie de monsieur tout le monde. Là, hein. Donc, 1 milliard, hein, ce qui est quand même assez énorme. Et présentement, c'est moins de 1% des véhicules qui sont tout électriques. Là. Donc, on est loin d'avoir une présence significative dans ce secteur-là, même s'il y a eu, dans le passé, beaucoup de politiques qui visaient à supporter ça, mais somme toute, ça a été plutôt... ce n'était pas des politiques très vigoureuses, si on a les résultats qu'on a. Ici, au Canada, on est à peu près dans cet ordre-là, je crois, 1%. La province où le taux de pénétration est le plus élevé, c'est le Québec. Ils ont commencé plus tôt. Là-dessus, évidemment, on met de l'avant que l'électricité au Québec coûte pas cher, donc c'est un point de vente, ça. Et puis, en plus, non seulement l'électricité coûte pas cher, mais elle provient de sources hydrauliques, comme en Colombie-Britannique. Donc, pour ceux qui veulent avoir bonne conscience à l'égard de l'environnement, ça satisfait ce critère-là. Et on sait que présentement, il y a une subvention du gouvernement fédéral. Le Québec a sa propre subvention, puis aussi une obligation de vendre un certain pourcentage de véhicules électriques. Alors, je crois qu'au Québec, on est peut-être rendu à 2-3%. Donc, on est encore quand même très loin. L'objectif pour 2030, et c'est un objectif qui est supporté aussi par le gouvernement canadien, je crois, c'est d'avoir 30% du parc automobile qui serait électrique. Donc, on est encore très, très loin de ce niveau-là.
Alors, justement, parlant de ces objectifs, 30% d'ici 2030, nous avons certaines municipalités ici dans le Grand Victoria qui annoncent 100% en 2050. Est-ce que, à la lumière aujourd'hui des politiques d'initiative, des politiques d'encouragement, de substitution du véhicule qui consomme des énergies fossiles vers le véhicule électrique, est-ce que ces objectifs vous paraissent réalisables?
Moi, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir qu'on on va se rendre à ce niveau-là. Parce qu'on est quand même en 2020, dont j'ai déjà mentionné, ça fait déjà quelques années où l'on discute de cette visée-là. Puis les progrès sont somme toute très modestes. Bon, là, le gouvernement canadien a imposé une taxe sur le carbone, taxe qui, la Colombie-Britannique a été... une pionnière dans le domaine pour avoir une taxe sur le carbone depuis 2008, si ma mémoire est bonne. Et mais les autres provinces, bon, n'avaient pas un prix sur le carbone qui était de ce niveau-là. Donc, il faut évidemment que le coût du carbone se reflète dans le coût d'usage du pétrole pour qu'effectivement ça supporte la transition vers des véhicules électriques. Mais les projets actuels dans les pays industrialisés sont somme toute trop ambitieux. Je crois que ça manque de réalisme, là. Surtout lorsqu'on connaît les succès relativement mitigés de ce qui a été fait déjà dans le passé.
D'accord. Alors aujourd'hui, quelle est à peu près la réalité pour un particulier pour opérer cette transition qui est, bien, on l'a compris, souhaitée par l'ensemble des pouvoirs publics? Est-ce que c'est intéressant au niveau du coût d'achat, de l'investissement par rapport à un véhicule classique? Est-ce qu'un particulier aujourd'hui, avec les aides ou les politiques incitatives, eh bien, arrive quand même à s'y retrouver?
Présentement, bon, je voudrais dire il y a deux niveaux. On sait qu'il y a des personnes qui ont un grand intérêt pour la protection de l'environnement et qui peut-être également sont fortunées. Donc ça, c'est un marché qui opère assez naturellement. Mais là, on parle de véhicules qui coûtent somme toute assez cher. Lorsqu'on parle de la Tesla, hein, c'est un véhicule dispendieux qui jusqu'à aujourd'hui, n'était pas considéré comme un véhicule pour monsieur tout le monde, là. Donc, c'est cette fameuse phase qui n'est pas encore vraiment abordée, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de véhicules qui sont d'intérêt pour l'usager commun et non pas les personnes à haut revenu et ainsi de suite. Présentement, dont le fédéral a toujours, je crois, une subvention, j'ignore que... Je ne me rappelle pas le chiffre exact, là. Je crois que c'est de l'ordre de 6 ou 8 000 $. Le Québec, lui aussi, a sa propre subvention. Certainement que le Québec, lorsqu'on prend les deux subventions, ça devient concurrentiel par rapport aux véhicules. Et aussi, il y a l'économie sur le coût d'usage. Ça coûte moins cher faire le plein à l'électricité.
Alors ça, justement, le coût d'usage, oui. Vous m'en parliez en introduction tout à l'heure lorsqu'on discutait en off. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ce sujet qui est très important à vos yeux?
Il y a deux dimensions au coût d'usage. C'est l'équivalent de faire le plein. Faire le plein à l'électricité, ça coûte moins cher. Selon nos prix actuels de l'électricité, ça coûte moins cher que d'utiliser le pétrole. Mais il faut dire que le pétrole, depuis le début de la pandémie et même un peu avant, il est très peu cher. Là. Ici, dans l'Est, on a vu le litre tomber en bas de 80 sous. Alors qu'en général, les calculs avaient été faits sur la base d'un prix du litre qui était de l'ordre d'un dollar, $1.25. Bon, on est en train de revenir tranquillement à ce niveau-là, mais si le prix est, encore une fois, un ennemi du véhicule électrique, c'est la faiblesse des prix de l'essence, de la gasoline. Alors, pour la protection de l'environnement, on espère que les prix du pétrole ne resteront pas à ce niveau-là. Ils redeviendront, je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 40 $, ce qui est très faible. Au début de l'année, on était autour de 65-70. On ne pense pas même qu'on reviendra à ce niveau-là très rapidement. Mais si on fait mettre de côté un peu ce problème-là pour avoir une vision de plus long terme, où le prix du pétrole serait plus élevé et où on aurait une taxe ou un prix sur les émissions, donc là, ça devient plus intéressant parce que le coût d'usage, il est plus faible là, pour l'usager. Évidemment, pour l'environnement, ça dépend des provinces. Bon, le Québec, les Colombes-Britanniques, le Manitoba, la presque totalité de l'électricité provient de formes hydro. Donc, lorsqu'on va vers un véhicule électrique, il y a baisse des émissions de CO2. Par contre, si on prend une province comme l'Alberta, où je crois encore aujourd'hui à peu près 80% de l'électricité provient d'énergie fossile, soit le gaz naturel, soit le charbon, bien, acheter un véhicule électrique, c'est pas nécessairement aussi avantageux pour l'environnement, parce que l'électricité, l'électricité qu'on utilise dans ces régions-là émet des gaz à effet de serre. Puis il faut dire que il y a beaucoup, si on revient à l'échelle mondiale, il y a beaucoup d'électricité qui est encore produite au charbon. On sait qu'un marché d'expansion pour le véhicule électrique, évidemment, c'est la Chine, parce que c'est un marché en croissance, c'est un nouveau marché. Mais en Chine, à peu près 75% de l'électricité provient du charbon. Alors, le gain net en termes d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas si évident.
Alors justement, parlons du bénéfice environnemental, la voiture électrique est-elle une réelle alternative écologique? Il y a quand même des questions qui se posent autour aujourd'hui de l'extraction des minerais précieux qui sont utilisés dans les composants des batteries, et puis surtout la question à la fois de la durée de vie de ces composants, de ces batteries, et de leur recyclage.
Oui, c'est-à-dire que c'est des nouveaux problèmes que l'on rencontre avec le développement de cette industrie-là. Lorsqu'on avait seulement quelques véhicules électriques vendus par année, ça laissait une empreinte écologique relativement faible et on se préoccupait pas outre mesure du recyclage. Mais lorsqu'on considère la production de batteries par le propriétaire de Tesla, où là, ils sortent des millions et des milliards de batteries, il faut se demander un peu aussi comment on va en disposer. Alors, effectivement, il faut regarder le cycle complet du véhicule pour être à même d'apprécier s'il y a vraiment un gain net en termes de protection de l'environnement et aussi des émissions de gaz à effet de serre.
Professeur, merci infiniment d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions.
Je vais vous souhaiter une belle fin de journée.
Également, merci à vous et merci encore pour tous ces éclairages sur le 107.9 FM. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Ottawa en sciences sociales et sciences économiques. Merci beaucoup, professeur.
OK, salut, bye.
Je vous le disais dans les titres, la deuxième partie de cette émission sera consacrée à l'actualité qui va se dérouler demain à Victoria, jeudi, en conseil municipal. Les élus réunis en assemblée plénière vont examiner une motion visant à faire interdire la pratique du contrôle inopiné d'identité par les services de la police de Victoria, par VicPD. Selon les rapporteurs de cette mesure, ces contrôles sont un marqueur de la stigmatisation raciale et du racisme systémique dans notre pays. Et pour aller plus loin dans ce sujet, je reçois désormais par téléphone avec nous le professeur émérite Timothée Stanley. Bonjour monsieur Stanley.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Pas mal, et vous ?
Plutôt bien, le soleil est arrivé. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de questions à vous poser pour aller plus loin dans ce sujet que je viens d'évoquer précédemment sur les prochaines actualités qui vont avoir lieu au conseil municipal de Victoria. Mais avec vous, nous aimerions d'abord revenir sur la question fondamentale, j'allais dire, la définition du racisme systémique peut-être d'abord en contradiction avec la définition du racisme ordinaire.
Mais il faut se souvenir que toutes formes de racisme sont finalement des formes d'exclusion. Exclusion des personnes à cause de leurs origines raciales, ce qu'on appelle la façon de laquelle les personnes sont racialisées. Et ces exclusions sont pas des choses qui arrivent naturellement, c'est des exclusions qui ont été créées par des personnes. Et juste pour vous donner un exemple, si on parle, par exemple, de le cas des personnes d'origine chinoise en Colombie-Britannique, ils étaient là depuis le commencement de Colombie-Britannique, si long que les personnes d'origine européenne. Mais à cause de leur exclusion historique, souvent des personnes le regardent comme des étrangers, des personnes qui n'ont pas le même droit d'être présents que des personnes d'origine européenne. Et l'exclusion des Chinois a été créée finalement pour créer le pouvoir des personnes d'origine européenne, surtout dans tout le processus de colonisation et la conversion des territoires des peuples autochtones dans la propriété privée des Européens. Alors, à cause de cette histoire, à cause de cette perception et la reproduction de cette perception que des Chinois, des personnes de couleur, des Noirs, même les autochtones, sont des personnes qui sont des étrangers, qui n'ont pas le même droit d'être présents que des personnes d'origine européenne. Ça traduit aussi dans des incidents de violence dans la vie quotidienne. Par exemple, il y a 2 semaines, je pense, qu'il y avait un sondage qui a été fait qui a souligné que 45% des personnes d'origine chinoise au Canada ont souffert des effets négatifs de stéréotypes qui sont responsables pour le COVID-19. Et 60% des Chinois ont changé la façon dans laquelle ils quelque chose dans leur vie quotidienne. Ça veut dire plus d'un million de personnes au Canada étaient affectées directement par le racisme qui entoure la pandémie.
Ça, c'était un épisode et qui malheureusement continue concernant la stigmatisation de la communauté asiatique. J'avais une question par rapport au changement peut-être nécessaire aujourd'hui des institutions, puisque la définition même du racisme systémique, c'est qu'il s'inscrit dans nos institutions. Je le rappelle, vous êtes spécialisé dans ces questions-là du racisme ici en Colombie-Britannique également. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la situation de fonctionnement de nos institutions, que ce soit à la fois la province et nos gouvernements locaux, du rôle de la police, notamment au sein des gouvernements locaux? Ont-elles encore dans leur habitude de travail quotidienne, ancré quelque part, même de manière tout à fait inconsciente, une forme de racisme systémique qui oriente peut-être le travail de la police ou des autorités répressives vers une plus grande stigmatisation des communautés, on va dire, minoritaires, de couleur?
Oui, le cas de la police est un cas intéressant. Évidemment, toutes les pratiques quotidiennes de la police sont les résultats de ces histoires d'exclusion. Et l'idée de base du département de police, c'est qu'il doit refléter la communauté dans laquelle la police fonctionne. Et ce qu'on sait, que ça c'est pas le cas, que pour plusieurs communautés qui sont pas vraiment bienvenue dans la participation régulière avec la police, pas de même façon que d'autres groupes. Et aussi, on a toute une histoire, par exemple, de GRC qui était utilisée comme vraiment une force pour assurer la colonisation des Autochtones, par exemple, c'est le GRC qui a pris les enfants et leur a transportés dans les écoles pensionnats. On sait qu'il y a plusieurs cas dans lesquels il y a des conflits entre le GRC et les communautés locales autochtones. Mais c'est la même chose si on regarde, par exemple, la situation des Noirs dans les grandes villes, peut-être un peu moins à Vancouver ou Victoria, mais surtout dans l'Est du Canada. Il y avait, par exemple, une étude qui était faite à Ottawa il y a quelques années et les personnes qui sont noires étaient trois fois, qui sont arrêtées trois fois plus que les autres personnes. Et ça, c'est juste un exemple des pratiques quotidiennes qui traduisent dans des exclusions de ces personnes-là.
Alors justement, cette semaine, vous parlez de ces pratiques qui perdurent. Beaucoup de conseillers municipaux vont essayer de faire passer une motion jeudi en conseil municipal de Victoria, eh bien, pour désormais interdire une certaine pratique policière qu'on appelle en anglais le carding ou le street check. En fait, c'est une pratique qui consiste à opérer par les services de police des contrôles d'identité aléatoires et inopinés. Est-ce que ça vous paraît une mesure intéressante, puisque vous venez de le dire, ces mesures ciblent, et c'est prouvé de manière statistique, plus particulièrement les personnes issues des minorités. Donc ça pourrait peut-être participer à une baisse de ce sentiment général de racisme systémique. Est-ce que les gouvernements locaux peuvent, à partir de cette mesure, par exemple, fonder une politique et désormais et de revoir le fonctionnement de leurs institutions, je pense aux municipalités principalement, mais pourquoi pas à la province, pour essayer de faire baisser ce racisme systémique et de prendre en compte tout ce que vous venez de nous dire précédemment?
Je pense que c'est un commencement, c'est un bon commencement, mais ce n'est pas la solution finale à le racisme systémique. Il faut comprendre c'est quoi les effets de carding sur les membres des groupes minoritaires. Ça veut dire que pour des personnes qui sont noires, par exemple, ou autochtones, le moment qu'ils sortent dans les rues, ils ont toujours la possibilité d'être arrêtés par la police. Chaque fois qu'ils vont voir la police, ils disent que est-ce qu'ils vont m'arrêter pour me demander des questions. Et ça, c'est malgré le niveau d'éducation ou les activités. Je connais des professeurs qui ont vécu cette sorte d'expérience. Et je dois dire que la dernière fois que j'ai été arrêté par la police, c'était quand j'étais une jeune qui il y a presque 50 ans. C'est pas quelque chose que des personnes comme moi expérimentent normalement. Ça souligne encore l'idée que les racismes sont des exclusions, parce que toute cette situation avec le carding, c'est pas nouveau. C'est pas juste récemment que des groupes minoritaires ont plaigné contre cette pratique-là, mais c'était des choses qui étaient nommées pour des années et des années. Et ça souligne l'idée que pour certains groupes, les polices sont vraiment une force militaire qui était utilisée, qui sent que c'est un groupe qui est une force militaire qui est utilisée contre eux. Et évidemment, ça, c'est pas la sorte de police qu'on veut. On sait aussi qu'une réalité, c'est la possibilité d'être tué par la police. C'est quelque chose qui est vécu aussi pour tous les minoritaires.
J'avais aussi une question plus légale en termes de droit. J'ai eu plusieurs sources concordantes qui m'affirment que justement ces politiques de carding ou de street check sont illégales actuellement au Canada. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une exagération?
Je dois dire que je ne suis pas un avocat ou spécialiste dans ça, mais je comprends que c'est illégal aussi. Que les polices, pour questionner quelqu'un, pour l'arrêter et questionner, doit avoir une raison à partir du fait que la personne est d'une certaine origine ou différent que le reste de la population. Et surtout, on a le droit de refuser. Si la police nous demande de nous identifier, nous avons toujours le droit de refuser. Le problème est que si on est un membre d'un groupe minoritaire, cette situation peut escalader très rapidement et devient quelque chose qui devient de plus en plus dangereux pour les personnes qui refusent de s'identifier. Je veux souligner encore la situation que des personnes vivent dans la vie quotidienne dans les rues sont différentes que pour d'autres groupes.
Timothée Stanley, merci infiniment d'avoir été avec nous par téléphone aujourd'hui.
Un plaisir.
Et puis, on vous souhaite donc une bonne retraite, puisque je rappelle, vous êtes professeur émérite. Merci encore infiniment d'avoir été avec nous.
Un plaisir et je vous souhaite un grand succès.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et pour la troisième et dernière partie de cette émission, je vous propose de nous pencher sur une déclaration faite la semaine dernière, vendredi, par la maire de Victoria, Lisa Helps, qui en appelle à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour émettre une ordonnance concernant la réglementation du campement à Beacon Hill Park. Alors la maire précise bien qu'il ne s'agit pas d'une expulsion, mais simplement d'une relocalisation de ces personnes sans abri qui ont été provisoirement autorisées par la mairie, je le rappelle, à camper dans Beacon Hill Park. Une demande donc à la Cour suprême pour autoriser le déplacement de ces personnes vers des zones moins sensibles écologiquement du parc. Je vous propose d'écouter tout de suite la maire de Victoria, Lisa Helps, qui nous retrace la chronologie des mesures prises par la municipalité et pourquoi la ville en est arrivée à demander l'appui de la Cour suprême.
I now want to turn to something that has been a topic for many council discussions and many conversations in the neighborhood, and that is with respect to Beacon Hill Park. So throughout the COVID-19 pandemic, the city has strived to follow the best public health advice available. We're not healthcare providers, and we're not healthcare professionals, and we're not housing providers. So when shelters closed or cut their numbers to adhere to physical distancing guidelines, and when people couch surfing had to leave because of no guest policies, we sought out the best advice we could as to how to best support the hundreds of people left to sleep outside because of this pandemic. And the best advice from healthcare professionals was to allow individuals to shelter in place, in a tent if needed, until indoor sheltering options can be found. And BC's provincial health officer, Dr. Bonnie Henry, recently reaffirmed this direction. And we intend to continue to be compassionate and to respect the human rights of those without homes during a pandemic. We are aware, as everyone is, that there have been individuals seeking temporary shelter in Beacon Hill Park. Beacon Hill Park is a very large park. It contains about 50 acres of land which is available for temporary sheltering, grassy areas, not eco-sensitive areas. But it also does contain 93 acres of land which is either environmentally sensitive or culturally significant to First Nations people. The environmental areas of the park contain a number of distinct and fragile ecosystems, which over the years the city has worked very hard to protect and to maintain. Rare and endangered plants are now being documented as experiencing significant damage. Protecting these areas is critical to maintaining biodiversity in the city, which is very important with the threat of climate change. So we're all very worried about people sleeping outside. We're also all very worried about the ecologically sensitive protected areas of the park. And so that's why today I'm announcing that the city has applied to the BC Supreme Court for an order to get people to move from the environmentally sensitive areas of the park to protect them from further damage that's being caused by people sheltering there. Now, to be perfectly clear, the city's application does not ask the court to stop people from sheltering in Beacon Hill Park or in any other park in the city. It simply requests through the courts that people move from the sensitive areas out into unprotected grassy areas.
Nous recevons maintenant le professeur et chercheur Tim Aubry, professeur et chercheur à l'Université d'Ottawa à l'école de psychologie. Bonjour monsieur Aubry.
Bonjour François.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Alors merci d'être avec nous. Nous venons d'entendre à l'instant un extrait sonore de la mère de Victoria, Lisa Helbs, qui nous refaisait une chronologie de la réponse publique apportée par la municipalité concernant le problème du logement des personnes sans abri durant cette crise sanitaire. Donc il y a eu dans un premier temps des initiatives pour rassembler et loger sur place, j'allais dire, dans un parc en extérieur, les sans-abri, avant que la province de la Colombie-Britannique n'intervienne et achète des hôtels pour loger une très grande partie des habitants qui dormaient dehors, malheureusement.
Ouais.
Les capacités aujourd'hui, à la fois de ces établissements qui ont été achetés et de ceux qui sont d'habitude gérés par des organisations de santé ou d'aide, sont désormais pleines, puisque leur capacité d'accueil a été divisée par deux en raison des mesures sanitaires. Donc il y a toujours une centaine de personnes à Victoria qui dorment dans le parc Beacon Hill. Alors la municipalité de Victoria a décidé de suspendre ces règlements qui normalement interdisent à la fois le camping dans certains endroits de la ville, notamment ces parcs-là. Elle a décidé de reconduire récemment cette suspension de ces règlements. Alors j'avais, par rapport à toute cette chronologie, plusieurs questions. D'abord sur, dans l'ensemble, l'échec de la solution et des réponses des pouvoirs publics. Je voulais vous demander si, de votre point de vue, elle n'était pas due à une définition qui, à mon sens, est trop large et trop homogène de la catégorie sociale des sans-abri, parce qu'on va appeler largement la catégorie sociale des sans-abri. Est-ce que cette classification ne doit pas être affinée, puisqu'il y a bien sûr une multitude de raisons, une multitude de profils des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui sont effectivement exclus de la société parce qu'ils ont connu des difficultés économiques, d'autres parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, d'autres parce qu'ils ont des problèmes d'addiction. Et d'offrir une réponse qui soit trop complètement lissée et homogène, ça ne prend pas en compte toutes ces caractéristiques, à mon sens.
Oui, ça c'est une question intéressante. Certainement, il y a des différents sous-groupes qui composent la population itinérante, puis en effet, il y a des adultes seuls, il y a des familles, il y a des jeunes, et les raisons sont complexes pourquoi ils se trouvent sur la rue. Mais qu'est-ce qui est commun dans toutes ces populations, c'est qu'ils n'ont pas les moyens économiques, pas le revenu pour être capable d'accéder à des logements après qu'ils se trouvent sans logement. Alors, c'est vraiment une question de pauvreté qui est extrême. Alors, l'idée, puis ça varie certainement en termes de les causes, mais pour vraiment répondre à cette question de pauvreté extrême, il faut commencer avec le logement. Alors, oui, c'est une population hétérogène, mais ça prend une solution qui est plutôt homogène, c'est que ça commence avec le logement. Puis, il faut combiner ça avec un support qui va varier, qui va cibler les différentes difficultés. Un support qui peut être très court terme pour ceux où c'est vraiment une question économique, ou un support qui est plus long terme quand c'est des troubles de santé mentale qui sont plutôt chroniques, qui sont à long terme, ou des dépendances qui sont assez sévères.
Alors justement, est-ce que, à la fois c'est un peu paradoxal, mais cette crise n'a pas permis justement peut-être des réponses sans précédent dans l'histoire de la problématique du logement des sans-abri, puisque, je l'ai dit en introduction, c'est la première fois que les échelons supérieurs de gouvernement se mobilisent avec à la fois autant de moyens matériels et humains, en offrant notamment, je pense, à l'achat carrément, ou la réquisition parfois d'hôtels, de logements modulaires pour justement héberger ces gens-là qui souffrent, comme vous venez de le dire, en premier lieu d'un manque de logement.
Oui, c'est paradoxal. Je suis tout à fait d'accord. Puis c'est une crise qui a vraiment déclenché les stratégies. Et même l'idée de mettre des ressources assez important où on peut finalement loger cette population. Puis on parle, si on parle de la grandeur de la population, chaque année, il y a certainement plus que 200 000 personnes au Canada qui se trouvent sans logement. Puis ça, c'est un grandeur, ça fait des dizaines d'années que c'est en place. Mais il me semble que la crise du COVID a amené une certaine visibilité au problème et en partie, c'était la grande inquiétude que c'est une population qui serait très vulnérable à l'infection et les difficultés de santé assez sévères associées avec une infection du virus. Et même l'idée qu'il y aurait des décès multiples dans la population à cause de leur situation. Puis on parle des refuges, il y a une manque de conditions qui seraient idéales, t'sais, proximité de distance, la manque d'hygiène, toutes sortes de choses qu'on aurait... qui inquiétait beaucoup le gouvernement par rapport à cette pandémie. Et en effet, le gouvernement fédéral a versé 157 millions de dollars tout de suite pour les organismes communautaires pour développer une réponse dans le milieu de cette crise. Puis ça dépend de la communauté. L'achat, comme vous dites, des hôtels, les logements modulaires, le développement des logements modulaires. Alors, c'est paradoxal. Je suis pas tout à fait convaincu que c'est la réponse idéale pour la population, l'idée de faire des grands foyers de groupe, puis de placer ces gens dans ces sortes de contextes. Mais c'est la réponse la plus rapide. Je pense que le gouvernement pourrait poursuivre pour répondre aux pandémiques.
Pourquoi, selon vous, ce sujet cristallise autant de crispation et parfois même d'animosité de la part du public? Je vais ne prendre qu'un seul exemple. C'est un dossier qui a été pris à bras-le-corps, et on peut le reconnaître, par la municipalité de Victoria, qui a essayé dès le début de la pandémie de trouver des solutions. Et elle s'est toujours heurtée, quelle que soit la solution avancée, les solutions d'hébergement, qu'elles soient provisoires, de transition ou définitives, à bien des refus, parfois très violents, de la part de certaines communautés, du voisinage, des gens qui, souvent, si on les interroge séparément, plutôt favorables à l'idée de régler ce problème et d'y participer, mais dès que effectivement une mesure les touche de près, ça devient tout de suite un énorme problème. Et je m'interroge à la fois sur la virulence et le caractère exacerbé des commentaires du public suite aux décisions politiques qui sont prises. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des fois, parfois, un manque d'œcuménisme, un manque de compassion vis-à-vis de ces gens-là?
Oui, il y a certainement une discrimination qui date avant cette pandémie en termes de vers les personnes marginalisées, les personnes qui se trouvent sans abri. Ça, c'est toujours là. Je pense qu'en même temps, on entend souvent les commentaires négatifs qui viennent des gens qui sont les plus vocales, puis... Il y a aussi une compassion dans les citoyens par rapport aux personnes marginalisées, et certainement par rapport aux à ceux qui se trouvent sans abri. Je pense où on voit une discrimination qui est plutôt vocale, c'est quand cette population devient plus visible. Si on parle d'un encampement dans nos parcs, dans ce cas-là, ils sont plus visibles. Et c'est ennuyant parce que ça, devant nous, on voit que nos politiques sociales sont pas efficaces pour ceux qui sont les plus vulnérables dans notre population. Puis je pense qu'il y a un inconfort qui vient avec ça. Et aussi, ça déclenche des fois des attitudes qui sont très négatives vers la population.
J'avais une autre question qui est très contemporaine au débat de société qu'on a actuellement au Canada et partout dans le monde sur des éventuelles mésactions de la police ou du moins des exagérations. Ce débat a eu au moins, la première vertu d'établir que parfois il faut des solutions alternatives à la réponse toute répressive et toute policière, notamment dans ces problèmes, dans cette problématique de gestion de ces populations vulnérables. Et notamment à Victoria, il y a quelques semaines, le conseil municipal a évoqué la possibilité de créer des groupes d'intervention qui seraient composés d'équipes de travailleurs sociaux et de la santé, en alternative justement, comme je disais, à une réponse qui serait en premier lieu policière pour les problèmes de santé mentale ou d'addiction. Est-ce que les conseillers ont cité en exemple un programme, le programme CAOUT, qui existe en Oregon, qui existe depuis 40 ans et qui est très efficace, et qui permet justement une réponse peut-être plus pertinente à ces problématiques-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes-là, et est-ce qu'il faut aujourd'hui les favoriser?
Oui, je suis très d'accord avec ce sorte de programme. La difficulté avec la police, c'est que le rôle, c'est vraiment d'assurer la sécurité du grand public, mais ils ne sont pas outillés pour vraiment gérer la gamme de difficultés de santé mentale qu'on voit dans une communauté. Et certainement, c'est surtout le cas quand on parle des gens qui sont sans-abri, parce que quand on est sans-abri, on n'a pas d'espace privé. Alors, on va être dans la communauté, et si on vit une période très difficile, si on se présente avec des difficultés psychotiques dans la communauté, ça va déclencher une réponse de la police. Et pour eux, ils veulent juste assurer qu'il n'y a pas de danger. Et c'est vraiment pas la sorte de réponse qu'on a besoin. Alors, l'idée de lier la police avec des services mobiles, puis c'est déjà fait dans toutes sortes de villes, puis je crois que ça devrait être accroître. Puis si c'est pas présent dans une ville, ça devrait être développé, parce que certainement ça l'a démontré que c'est une réponse efficace pour ces sortes de difficultés, et aussi va aider une personne qui vit une période difficile, qui démontre des comportements peut-être agressifs ou des comportements qui sont vraiment abnormaux. Ça va leur aider à se lier à des propres services pour répondre à leur...
Un mot de votre part, professeur Aubry, sur le chevauchement de la crise des opioïdes et de la crise sanitaire actuelle. On sait que les chiffres de décès par overdose ont explosé depuis le début de la pandémie.
Oui, en effet. Ça, c'est l'autre partie qui est peut-être moins visible. Hein? C'est la crise des opioïdes, puis... les décès, bon, encore, ça date, ça date avant la pandémie, mais on a mis tellement de ressources et attention pour les choses devant nous, comme comment qu'on va assurer que le virus va pas être dans la population sans-abri, va pas circuler de façon énorme dans la population. On peut oublier les autres difficultés de santé, comme cet abus de opioïdes. Je pense qu'il faut vraiment mettre en place des mesures qui, en même temps que d'assurer qu'il n'y a pas une circulation, une grande infectivité dans les gens qui sont itinérants, on assure aussi qu'ils sont aussi sécures du côté d'abus de ces drogues qui sont extrêmement, extrêmement dangereux.
Un mot pour conclure, une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure qu'à votre sens, les solutions d'hébergement temporaire, on va dire plus ou moins court, moyen ou long terme, qui étaient avancées, n'étaient pas pour vous la solution idéale. Est-ce que vous pouvez nous dépeindre, nous décrire, à votre sens, quelles sont les meilleures politiques aujourd'hui à mettre en place pour favoriser une réinsertion réussie? Est-ce que vous avez des exemples des régions dans le Canada dans lesquelles ça fonctionne plutôt bien?
Oui, alors c'est vraiment une approche qui s'appelle Logement d'abord, Housing First. Puis l'approche est basée sur le choix des personnes qui se trouvent sans abri, leur donner un certain choix dans le type de logement qu'ils préfèrent vivre dedans à long terme. Et on a démontré au Canada avec une très grande étude que c'est extrêmement efficace, même pour ceux qui vivent une itinérance à long terme, qui ont des troubles de santé mentale sévères, avec dépendance, que ces gens peuvent être supportés dans des logements normaux où le service est séparé du logement. Puis la grande majorité des gens préfèrent un logement normal. Puis là, ça pourrait être appliqué, bon, certainement si c'est efficace avec ceux qui ont des troubles de santé mentale sévères, ça peut être appliqué à d'autres qui n'ont pas besoin nécessairement d'un support intensif ou à long terme. Puis ça prend deux choses pour que la politique au Canada se penche dans cette direction. Un, c'est d'accroître le nombre de suppléments de loyer, parce que c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est une question de pauvreté qui est comme obstacle. Et deuxièmement, ça prend la création des logements abordables. Mais là, je parle de logements abordables qui sont réguliers, qui sont intégrés dans la communauté. Alors déjà, on fait du logement d'abord Housing First. C'est fait à Vancouver. Je suis pas mal sûr que c'est fait à Victoria. Mais tous les programmes sont assez petits. Puis à mon avis, long terme, il faut vraiment accroître ces sortes de programmes. Puis l'idée, au lieu de mettre en place une stratégie de logement d'abord, de regrouper toute la population dans des logements de groupe, des foyers de groupe, des logements où on peut avoir 40, 50, même 100, quand on parle d'un achat d'un hôtel. Long terme, ça ne va pas promouvoir une intégration dans la communauté. Ça va séparer ces gens de la communauté. Et qu'est-ce qui m'inquiète, c'est long terme, dans ces sortes de logements de groupe, on va créer un sorte de ghetto pour ces gens qui sont marginalisés. Alors, c'est ça mon idée, et c'est suivi par beaucoup de pays maintenant comme stratégie. Le pays qui a vraiment mis ça en place de façon assez majeure, qui a complètement diminué le nombre de personnes qui sont itinérants, c'est actuellement en Finlande. Ils sont très avancés dans la mise en place de cette approche, de cette politique. Puis juste pour vous donner une idée, à Helsinki, il y avait une population un peu plus que 1 million, ils mettaient dans les refuges d'urgence 2000 personnes. Ça fait juste peut-être 6 à 8 ans avant. Aujourd'hui, il y a un refuge pour 50 personnes. Ça démontre l'efficacité au niveau d'une ville, d'une communauté, de mettre en place cette sorte d'approche. Ça devrait être la politique qui devrait être centrale de nos gouvernements, tous les paliers de gouvernement, par rapport à résoudre le problème d'itinérance ici au Canada.
Tim Aubry, merci infiniment pour toutes ces précisions.
Ah, c'est mon plaisir, François. Bonne journée.
Ainsi s'achève notre 16e rendez-vous de regard sur le Grand Victoria. Je remercie encore l'ensemble de mes invités qui ont contribué à l'enrichissement de cette émission. J'espère en tout cas qu'elle aura su vous apporter quelques éclairages supplémentaires sur l'actualité du Grand Victoria. Pour ma part, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous, chers auditeurs. Je vous souhaite évidemment de passer une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir sur les ondes de Radio Victoria mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission de Regard sur le Grand Victoria. D'ici là, portez-vous bien et soyez prudents, respectez bien les gestes barrières. À bientôt !